contre le traité de Versailles est en comparaison du combat que je viens de dire, du combat spirituel et culturel, un détail. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, le traité de Versailles est mort et enterré depuis longtemps. Il ne s'agit plus de le combattre. Et l'autre combat dure toujours. Et durera probablement encore très longtemps. Asseyez-vous donc. Et j'ai dit à ce moment-là, j'ai pensé à moi-même, si c'est ça, si ce chef allemand, vraiment, a l'intention de nous sauver tous de cette sorte d'esclavage spirituel, eh bien, il n'est non seulement le Führer des Allemands, il est mon Führer à moi. Et c'est de ce jour-là que je me suis considéré comme sa disciple. Ce jour-là, c'est-à-dire il y a aujourd'hui 53 ans. Je suis rentré en Grèce, par Chypre, avec les autres pèlerins. Avec les autres pèlerins, oui. Nous avons été fêtés à Chypre au cri de Vive l'union avec la Grèce. Chypre qui est maintenant coupée en deux. Ils ont la manie de couper en deux tous les pays après la guerre. En deux ou en quatre ou en trois. Et en Grèce, j'ai parlé dans le sens que j'ai parlé maintenant. J'ai parlé de la survivance de tant de choses qui appartiennent en réalité à la religion de l'ancienne Grèce et qui ont passé dans le christianisme, plus ou moins. J'ai parlé que j'ai toujours insisté sur le fait que la conversion, très lente d'ailleurs, puisqu'il y avait encore des Grecs adorateurs des anciens dieux au XVe siècle, il paraît. Rare, mais il y en avait. Eh bien, il y avait pas seulement des Grecs, il y avait les Prussiens. Les Prussiens ont été convertis au christianisme au XVe siècle. Eh bien, je me suis heurté naturellement à la barrière de l'Église et à la barrière d'une tradition qui était déjà très vieille. Et j'ai senti qu'il n'y avait rien à faire. Qu'il fallait que j'aille dans un pays qui n'avait jamais changé de Dieu. Et il n'y en a pas beaucoup. Il y a la Chine, évidemment. Mais je ne suis pas chinoise. Je n'ai rien de commun avec la race jaune. Et la Chine, dans ce temps-là, était d'ailleurs en assez mauvaise posture, enfin, n'était pas stable. Il y a le Japon, que j'ai toujours admiré. Oui, le Japon, c'est la même chose. Il n'a jamais changé de Dieu, heureusement pour lui. Fidèle à son culte des héros, du soleil et de la terre japonaise. Mais ça, qu'est-ce que ça a à faire avec moi? De pays, au moins en partie de race aryenne, qui n'est jamais changé de Dieu, il n'y en a en somme, il n'y en a qu'un. C'est les castes supérieures de l'Inde. Je ne dis pas c'est toute la population hindoue, loin de là. Je m'en suis aperçu d'ailleurs en allant en Inde moi-même. La population totale de ce qu'on appelait dans ce temps-là les Indes anglaises, et qui était de 270 millions, alors qu'elle dépasse pour la même surface aujourd'hui le milliard, elle le dépasse de 100 millions à peu près. Cette population était en grande partie non aryenne, ou dravidienne, ou négroïde, ou ce qu'on appelle de type munda, c'est-à-dire des cheveux lisses, mais une peau noire, et tout ce qu'on appelle les aborigènes de l'Inde, les santals, les bhils, les gounds, les todas de l'Inde du Sud, enfin tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est évidemment du non-aryen, de vrais aryens, et à peau claire, comme l'était feu mon mari, il n'y en a vraiment en Inde à peu près qu'une vingtaine de millions. Vous me direz, c'est rien du tout, comparé à 1000 ou 1100 millions. Évidemment, c'est rien du tout. Mais 20 millions, c'est deux fois, plus de deux fois, presque trois fois, la population de la Grèce. C'est quand même quelque chose. Si on pense qu'il y a 6000 ans, il faut remonter jusqu'au 4e et 5e millénaire avant Jésus-Christ pour trouver les premières invasions des vagues aryennes venues du nord, du grand nord, comme l'a démontré l'écrivain hindou Tilak, mort en 1920. Et pour que cette tradition dure si longtemps, il a quand même fallu qu'elle ait une vitalité extraordinaire. Je suis allée en Inde pour m'identifier avec cette minorité et pour combattre aux côtés de cette minorité. Oui, alors, c'est véritablement pour ça que je suis allée dans l'Inde. C'est pour retrouver, si possible, un équivalent tropical, faute de mieux, de l'Europe d'avant le christianisme. L'Europe dont j'ai toujours pleuré d'abord. La mort ou la disparition temporaire, j'espère. Et me voilà en Inde. Je devais revenir en Europe en 1935 pour soutenir mes thèses de doctorat. Je suis partie avec une licence S-lettres d'enseignement et une licence de sciences. Et c'était en 1932. Mon expérience en Inde, écrite après 35, en français, dans un livre sous le titre de L'étang au lotus. Le livre existe encore. A commencé alors. J'ai vécu d'abord quelque temps à Ceylan. À Ceylan, j'ai visité Candy. J'ai pris part pour la première fois de ma vie à une cérémonie bouddhique. Avec des tambours, j'ai déposé des fleurs devant une immense statue de Bouddha qui n'avait rien d'un jaune. Le Bouddha est un aryen, n'oublions pas ça. C'est un hindou de la classe des kshatriyas qui, dans cette époque-là, était aryenne. Et puis, j'ai visité la vieille capitale, Anuradhapura. S'étendait sur une étendue immense, presque aussi grande que celle de Londres. La civilisation de Ceylan dans l'Antiquité était très, très brillante. Anuradhapura, capitale bouddhique, a été détruite par des Tamils, c'est-à-dire des Indiens hindous du sud de l'Inde. Et ça, au 10e siècle, je crois, au 9e siècle. Disons à l'époque de Charlemagne. Ou un peu après lui. Et de là, je suis allée, j'ai pris le bateau, passé le détroit, et de Talamanar, de Donishkodi à Talamanar. Je suis allée en Inde, dans le sud. Et là, J'ai vécu la Vaishak Purnima, c'est-à-dire la pleine lune du mois de Vaishak, qui est le mois de mai. Une partie du mois de mai, une partie du mois d'avril, une partie du mois de mai. Dans le temple de Rameshwaram. Temple consacré donc à une incarnation du dieu Vishnu, Rama. Rama qui a été un roi, qu'on représente toujours, ainsi que son épouse Sita, on les représente toujours blancs. Ils étaient vraiment blancs. C'était des Kshatriyas, donc des Aryens, du nord de l'Inde, de Ayodhya, qui ont conquis le sud. Ou plutôt, le roi du sud, le roi de Ceylan, Ravana, qu'on représente comme un monstre, naturellement, avec plusieurs têtes, mais tout ça, ça ne veut rien dire. C'est la mythologie. Ravana aurait enlevé Sita. Contrairement à d'autres gens qui enlèvent la femme du voisin, il l'a respectée. Il l'a fait garder par trois vieilles femmes. Mais il ne l'a pas touchée. Il l'a fait garder dans un bois. Et toute la guerre entre l'Inde et Silsélan, non pas l'Inde, mais la petite armée de Rava, c'est une guerre pour retrouver sa femme. C'est, raconte la mythologie, avec une armée de singes, non pas de gens, mais de singes à quatre pattes, que Rama a conquis Ceylan. Il a fait un pacte avec Hanuman, le roi des singes. Et les singes se sont tenus les uns les autres par la queue, comme ils font quand ils veulent passer un fleuve. Ils ont passé le détroit de l'Inde à Ceylan. Si vous voyez la largeur du détroit, c'est un peu difficile, même pour des singes très bien entraînés. Mais enfin, c'est la légende. Et en réalité, ce que je crois personnellement, c'est que ce ne sont pas des singes du tout. Ce sont des gens de race inférieure. Ce sont des aborigènes de l'Inde. L'Aryan a fait alliance temporairement avec les aborigènes pour battre un dravidien très fort, très puissant, qui était Ravana. Et il a conquis Ceylan. Et la chose ironique, c'est que de nos jours, 20e siècle après Jésus-Christ, je ne sais pas combien de siècles après le légendaire Rama, toute la population hindoue, du sud comme du nord, vénère Rama. À Rameshwaram, j'ai vécu une nuit extraordinaire, dans l'obscurité complète d'abord. Un défilé de 7 éléphants, avec des signes d'ocre et de vermillon sur la tête, et des penderies pourpres sur le dos, avec leurs cornacs, des cornacs des jeunes gens très beaux, de race dravidienne naturellement, presque nus, avec un petit pagne. Et puis ils sont allés, ces éléphants, du temple, avec un accompagnement de musique avant, musique très extraordinaire aussi, je l'entendais pour la première fois, à l'étang sacré. Tous les temples ont un étang sacré dans l'Inde du Sud. Un étang, il y a des escaliers où on peut descendre, se baigner, un étang qui est sacré. Planant autour au-dessus de l'étang sacré, il y avait un cocotier et un sol dans un ciel violet, inondé de pleine lune. Et puis, les statues blanches en albâtre de Rama et de Sita, sur lesquelles les gens jetaient des fleurs. Moi, j'avais emprunté un sari rose, j'étais donc habillée à l'indienne, et j'ai aussi jeté des fleurs sur les statues de Rama et de Sita, mes frères de race. Et Je ne pouvais pas moins faire que de penser au chant allemand de l'époque. Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Aujourd'hui, l'Allemagne nous appartient, demain, le monde entier. Et je voyais cette foule sombre, n'est-ce pas, entre le marron clair et le marron foncé. Pas un seul à rien dans cette foule, ou presque pas, excepté moi, qui s'était dérangé. Ils viennent de très loin pour ces cérémonies religieuses. Ils s'étaient massés là pour rendre hommage à Rama et Sita, les Aryens dans l'Antiquité. Je dis, aujourd'hui, heute die ganze Welt, aujourd'hui le monde entier. Dans l'hindouisme, il y a déjà, l'hindouisme traditionnel, il y a déjà cette idée. Dans l'hindouisme, la race aryenne est considérée comme la race supérieure. Les autres races lui rendent hommage. Les Dravidiens rendent hommage à Rama. La preuve que c'est vrai et que c'est très vivant tout cela, c'est que des années plus tard, quand, sous l'influence probablement des communistes, quand il y a eu dans l'Inde du Sud un parti politique, le Dravida Munnetra Kazhagam, un parti politique qui était anti-arien, qui a fait des pieds et des mains pour que les brahmanes du Sud s'en aillent. Il y a une moitié des brahmanes du Sud sont partis maintenant, sont allés vers le Nord, à cause des activités de ce parti-là. Ce parti a provoqué des émeutes. Je vous parle de récemment, enfin il y a une dizaine d'années, pas plus. Et dans ces émeutes, on a renversé, on a brisé des statues de Rama et de Sita. Des statues vénérées par l'hindouisme. Et ça a été des émeutes justement parce que ce parti-là avait des activités anti-hindoues, anti-religieuses. La religion étant centrée sur la supériorité de l'Arya. Tout ça, ça me plaisait beaucoup. Je suis remontée vers le nord, après être restée quelques jours à Rameshwara. Je suis remontée vers le nord, j'ai visité diverses villes, temples, en particulier Trichinopoli. Trichinopoli, que vous chercherez sur la carte, qui a un temple avec un immense escalier intérieur qui monte comme presque tout droit. Et au sommet, il y a un dôme d'or et une terrasse. J'ai vu des chapelles à droite et à gauche de l'escalier. Et j'ai vu une pancarte. Entrée interdite aux Européens. Pas parce qu'ils sont ariens, loin de là, mais parce qu'ils sont considérés comme mangeurs de bœuf. Le bœuf étant, la vache étant sacrée aux Indes, c'est tout. Interdite aux Européens, aux Eurasiens, c'est-à-dire au mélange européen-indou, et aux intouchables. Je ne suis pas entrée, naturellement. Le brahman, prêtre d'une des chapelles, m'a dit, madame, entrez. Il a dit en anglais. Et puis, pensant que je ne connaissais peut-être pas l'anglais, il me l'a répété en hindi. J'ai dit, mais comment voulez-vous que j'entre? Il y a la pancarte, là. Entrée interdite, etc. Mais elle n'est pas pour vous, la pancarte. Entrez. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je suis rentrée, j'ai fait une salutation devant... C'était devant Siva, le dieu Siva. Et puis, je suis partie, je suis montée en haut. Sur la terrasse, il y avait un jeune homme qui était en train de psalmodier du chant du sanskrit. C'était très beau. J'ai vu tout le paysage qui se déroule entre Trichinopoli et Sri Rangam, un autre très grand temple de l'Inde du Sud, avec trois route qui mène dans chacune des directions, et 7 gopuram à chaque route, c'est-à-dire 7 entrées triomphales, à un nombre d'étages impairs toujours, distants, de plus en plus distants du temple, à mesure qu'on s'en va vers les 4 directions. Je regardais ça, sortant de la végétation tropicale, avec la rivière Cauvery comme un serpent d'argent qui allait dans cette direction. Je trouvais ça très beau. Et puis je me suis retournée, j'ai tourné la tête. Qu'est-ce que j'ai vu derrière moi? Une grande bâtisse, ultra moderne, ultra LED, avec beaucoup de fenêtres. Je demandais aux gens, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça ici? Ah, madame, ça c'est l'hôpital des Jésuites. Là, j'ai dit, mais fistre, l'hôpital des Jésuites. Si je peux les combattre, moi, les missionnaires qui veulent, ils sont venus détruire ça et bâtir ça. Si je peux les combattre, je le ferai. D'ailleurs, ça fait partie de mon programme. Bon, j'ai essayé dans l'Inde du Sud. C'est que l'Inde du Sud était orthodoxe dans ce temps-là. En Inde du Sud, et en Inde du Nord aussi en général, une fois que quelqu'un était sorti de l'hindouisme, il ne pouvait non seulement plus y rentrer, mais ses descendants ne pouvaient plus y rentrer. J'ai rencontré dans l'Inde du Sud des gens dont l'arrière-grand-père ou dont l'arrière-arrière-grand-père s'était fait catholique. Ces gens-là auraient bien voulu rentrer dans l'hindouisme. Impossible, l'hindouisme ne les prenait pas. C'est pour ça que vous avez un si grand nombre de noms hindous, ou du moins qu'il y avait autrefois, dans ce temps-là, un si grand nombre de noms hindous, d'origine hindoue. Quand j'ai vu ça, et j'ai cherché une organisation qui soit contre ça, pratiquement avec une loupe, je n'en ai pas trouvé. Je suis montée vers le nord, par petites étapes, en visitant tous les temples sur le chemin. Kunjivaram, Kumbakunam, Tirichandur, tous les temples du sud. Et il y en a une flopée. Ils sont tous très beaux. L'un est plus beau que l'autre. De style dravidien. Je suis montée et je suis arrivée au Bengale. Au Bengale, je suis restée. J'ai entendu dire qu'il y avait une société qui s'appelait Hindu Mission, mission indienne, mission hindoue plutôt, fondée et dirigée par un certain homme qui s'était fait moine, un père de famille qui s'était fait moine, Satyananda Swami. Qui était un nationaliste hindou et bengali, et qui voulait, justement, ramener dans l'hindouisme ceux qui en étaient sortis. Bien plus, il voulait donner une conscience hindoue à ceux qui n'étaient pas hindous du tout. Par exemple, aux aborigènes. Je n'ai jamais confondu un hindou avec un aborigène de l'Inde qui a une religion à lui. Une religion très primitive. Il va, par exemple, il va sacrifier à l'esprit d'un arbre ou à je ne sais pas quoi. En fait, c'est quelque chose de très primitif. Ça ne peut pas s'appeler de l'hindouisme. Ce n'en est pas.